Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci d'être avec nous. Bon début de semaine. Vous nous appelez, vous vous exprimez. L'antenne vous appartient. Dans 30 minutes, nous parlerons de la Côte d'Ivoire après le premier grand rassemblement de l'opposition. À 3 semaines de l'élection présidentielle, c'est une opposition unie qui s'était donné rendez-vous samedi au stade d'Abidjan pour faire barrage à la candidature d'Alassane Ouattara à un troisième mandat. Ce rassemblement devait donner le coup d'envoi à des actions dans le cadre de l'appel à la désobéissance civile lancé il y a quelques semaines, mais finalement, aucune annonce concrète n'a été faite. On va en parler évidemment ce matin, on s'interroge évidemment sur la stratégie de l'opposition ivoirienne, est-elle suffisamment claire? Diriez-vous que l'opposition a réussi samedi à mobiliser ses militants, ses sympathisants? Et on parlera évidemment de ce bras de fer qu'elle engage donc avec le pouvoir ivoirien. 33 9 693 693 70, vous continuez évidemment à poster vos commentaires sur nos réseaux sociaux. On a dû recevoir plus d'un millier, de réactions concernant cette actualité ivoirienne tout au long du week-end. Donc, comme tous les jours, évidemment, je lirai quelques-uns de ces commentaires. Je me ferai votre porte-parole. Mais d'abord, vous le savez, ce sont vos questions à la rédaction pour mieux comprendre, mieux décrypter tous les sujets que nous traitons dans nos différents journaux. Almani, bonjour.
Oui, bonjour Juan Gomez, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Mondiale.
Merci de nous appeler du Burkina Faso, bon début de semaine à vous. Quelles sont vos questions?
Merci également. C'est le Mali, encore le Mali.
Oui.
Voilà, c'est, le Mali est un pays qui était vu comme le premier pays producteur de coton en Afrique. Et cela grâce à une performance inédite. Cette année, malheureusement, ce sera l'une des récoltes les plus catastrophiques de l'histoire du pays. Moins de 80 000 tonnes contre près de 300 000 tonnes l'an dernier. Alors ma question est de savoir en quoi la pandémie du Covid-19 a-t-elle impacté négativement cette production.
Ouais, la production d'or blanc a fortement chuté au Mali, un plongeon de 75%. Bonjour Claire Fage.
Bonjour, bonjour Juan, bonjour Almani.
Vous présentez tous les jours la chronique des matières premières sur RFI. Expliquez-nous en quoi l'épidémie de Covid-19 est responsable de cette chute vertigineuse de la production malienne.
Eh bien, le Covid, vous le savez, a créé un confinement. Les gens ne sont plus allés dans les magasins pour acheter des vêtements. L'industrie textile a été complètement paralysée. Et de ce fait, la consommation de coton s'est effondrée. Donc, les cours mondiaux du coton ont fortement chuté, hein, de 30% au premier trimestre de l'année. Et puis, de ce fait, eh bien, les prix aux producteurs ont été impactés, et particulièrement au Mali. Le Mali s'est, on va dire, peut-être un peu précipité pour baisser drastiquement le prix aux producteurs. Il est passé de 275 francs CFA l'an dernier de coton graine, hein, à 200. Donc 275 à 200 pour la récolte qui va commencer aujourd'hui. Donc juste avant que les agriculteurs ne décident s'ils allaient ou non semer du coton.
Ah,
voilà.
Donc,
et c'est là que le Mali... Voilà.
Oui, parce qu'on comprend, les exportations diminuent. On comprend bien la crise à l'échelle internationale de l'industrie du textile. Donc les exportations diminuent. Les cours chutent. Très bien. Le coton se vend moins. Mais pour autant, comment expliquer que le Mali produit moins du coup?
Eh bien, parce que quand la compagnie cotonnière nationale, la CMDT, a fait ses comptes, elle a vu que le prix mondial ne lui permettait plus de rentrer dans ses frais en vendant le coton. Donc, elle a baissé le prix qu'elle payait aux cotonculteurs pour la campagne suivante. Et elle l'a annoncé très vite, avant que les agriculteurs ne prennent leur décision ou non de semer du coton. Alors que dans les autres pays de la zone, les États ont un peu attendu et les cours se sont un peu redressés par la suite parce que la Chine a davantage acheté, enfin voilà. Oui. Et puis que les matières premières se sont un peu reprises après le mois d'avril. Mais de ce fait, si vous voulez, les Maliens ont été découragés de semer du coton. Il y a eu un autre fait aggravant, c'est-à-dire que le prix des engrais a été fortement augmenté. La subvention sur les engrais a été coupée. De ce fait, si vous voulez, ça a été totalement décourageant pour les agriculteurs qui, en plus, étaient en période électorale dans leurs propres instances, c'est-à-dire qu'ils réélisaient leurs représentants à la tête des organisations agricoles. Et on sait que dans un contexte pareil, eh bien, il y a beaucoup, beaucoup de positions qui se durcissent, etc. Donc, les agriculteurs ont décidé de faire la grève du coton. Et quand l'État s'est rendu compte un peu de son erreur, parce que le coton est très important pour les finances du Mali, eh bien, c'était trop tard, parce que les pluies n'arrivant pas, elles sont arrivées au mois de juillet. L'État a eu beau faire un petit coup de pouce de 50 francs CFA sur le prix du kilo de coton graine, eh bien, les agriculteurs avaient déjà pris leur décision et c'était trop tard pour qu'ils
s'aident. C'était trop tard et certains agriculteurs ont dit ces 50 francs supplémentaires le kilo, c'est tout de même insuffisant. Donc on a bien compris que les producteurs maliens ont renoncé cette année à produire. Ils se sont tournés vers d'autres cultures. Vous aviez une dernière question, Almani ?
Oui, oui, j'ai une dernière question. Quelles sont les solutions qui peuvent être envisagées pour relancer la production?
J'imagine, en quelques mots, Claire Fage, il faut impérativement que l'industrie textile mondiale reparte.
Voilà, et puis que le prix aux producteurs soit encourageant pour la prochaine campagne. Mais c'est vrai que le mal, il est déjà très profond, parce que la compagnie cotonnière, la CMDT, elle est très fragilisée, elle est exsangue financièrement, parce qu'elle a été forcée de brader les stocks de coton qu'elle avait encore de la saison précédente. Elle en avait plus que les autres pays, et de ce fait, les banques ont un petit peu paniqué et ont forcé cette compagnie cotonnière à brader son coton. Donc elle risque de ne plus avoir les reins assez solides pour soutenir les producteurs, d'autant que le fonds de soutien du Mali, qui est tenu par les organisations d'agriculteurs, est vide.
Et il est vide. Vous êtes producteur de coton malien, appelez-nous, on a envie de vous entendre. On vous donne la parole vendredi, si vous le souhaitez, évidemment, dans la libre antenne. On a répondu à vos questions, Almani ?
Oui, oui. Merci bien.
Merci surtout à Claire Fage, qu'on retrouve évidemment demain, comme tous les jours, pour la chronique des matières premières sur RFI, 8h18 en temps universel. On repasse au standard avec des questions maintenant sur la situation dans le Haut-Karabakh et ses combats entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Mossadou, bonjour.
Oui, bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de la RFI.
Vous êtes à Conakry en Guinée, soyez le bienvenu, nous vous écoutons.
Effectivement, Juan, et comme je le disais au standard, l'armée turque déploie des combattants syriens en fin de contrat en Libye, dans le Haut-Karabakh. Et donc, à ces problématiques, à ces des problématiques, à savoir, qui sont ces mercenaires? Peut-on supposer la présence d'extrémistes parmi eux, puisqu'ils auraient précédemment pu combattre en Syrie?
Oui, des mercenaires syriens engagés aux côtés de l'Azerbaïdjan. Houda Ibrahim, bonjour.
Bonjour.
Journaliste au service Afrique de RFI, des témoignages concordants font état effectivement de la présence de miliciens syriens pro-Turquie, pro-Ankara, aux côtés des forces azerbaïdjanaises. Que sait-on de ces mercenaires? Qui sont-ils?
Eh bien, les mercenaires déployés aujourd'hui en Azerbaïdjan, dans le Haut-Karabakh, font partie de ces combattants que la Turquie a formés en Syrie depuis 2011 en le finançant par l'argent du Qatar. La levée du secret, il y a quelques jours, sur le mail de Hillary Clinton, confirme bien le rôle de ces deux pays dans les crises vécues par l'Irak, la Syrie, le Yémen, l'Égypte et la Libye depuis 2011 sous impulsion américaine. Il s'agit donc des combattants syriens formés par la Turquie dans les différentes brigades qui lui sont fidèles. Parmi les mercenaires envoyés en Libye, il y avait effectivement des extrémistes djihadistes issus de l'organisation État islamique ou du Front al-Nusra, classé comme organisation terroriste. Donc, des noms bien précis et bien connus des djihadistes s'est trouvé en Libye et certains y ont été tués. Une partie de ces combattants syriens en fin de contrat est partie soit directement de la Libye à Bakou, soit en repassant par la Turquie pour quelques jours.
Donc ça veut dire, attendez, c'est intéressant ce que vous dites, Houda Ibrahim. Vous dites que certains de ces miliciens syriens que la Turquie avait déployés en Libye sont désormais dans le Haut-Karabakh.
Oui, tout à fait, ça c'est sûr. Il y a eu de vols directs ou de vols de la Turquie, mais des combattants qui étaient en Syrie. C'est une partie. Alors, il est très difficile de parler des chiffres. Ça varie entre 1,5 million ceux qui sont venus de la Libye, mais on ne sait pas le nombre exact parce que même avant le début de ce conflit, des combattants syriens étaient déjà acheminés vers le Haut-Karabakh.
Donc il n'est pas exclu que des extrémistes soient envoyés par la Turquie à Bakou.
Du tout, c'est même certains, les deux présidents français et arménien l'ont confirmé, l'ont mentionné. Une partie de ces combattants vient d'Idleb et l'on sait qu'ils combattent aujourd'hui à Idleb. Il n'y a plus que les extrémistes, des djihadistes, donc des membres de l'EI et d'Al-Nusra, et des extrémistes pro-turcs dans le Caucase. Cela embête bien la Russie. Ankara et Moscou se font concurrence pour maîtriser les sources d'énergie dans le Caucase, tout comme en Libye, en Syrie, à l'est de la Méditerranée et ailleurs. Ça s'étend même jusqu'à la mer Noire. Et on sait que depuis 2011, la Turquie a permis à ses combattants venus de partout dans le monde. Même l'Ouïghour de la Chine sont venus combattre en Syrie. On sait que la Turquie a facilité les passages de ses frontières de la Turquie vers la Syrie. Elle a laissé entrer tous ces combattants venus de partout.
Mossadou, a-t-on répondu à votre question ?
Parfaitement, merci à vous et merci à Houda Ibrahim.
Houda Ibrahim, du service Afrique de RFI. Bonne journée à tous les deux. 10h22 ici à Paris. N'oubliez pas, dans 20 minutes maintenant, notre bilan de la journée de samedi en Côte d'Ivoire, puisque l'opposition a organisé son premier grand rassemblement. L'opposition était certes unie, mais avez-vous compris son message ? Avez-vous compris sa stratégie ? On en parle, car tout le monde s'attendait effectivement à ce que les opposants développent, détaillent ce concept mis en avant depuis quelques semaines, celui de la désobéissance civile. Aucune action concrète n'a été annoncée samedi. Donc on va en parler évidemment tout à l'heure tous ensemble. 33 9 693 693 70. J'accueille Henri, bonjour.
Bonjour Juan et bonjour à tous les auditeurs de la Radio Mondiale.
Vous êtes au Cameroun, à Douala, nous vous écoutons.
Oui Juan, Derek Chauvin, le policier présumé de George Floyd, a été libéré en attendant son procès après avoir payé une caution $1 million. Comment expliquer que la justice américaine permette à un meurtrier d'être libéré en payant une caution? La dite caution est estimée à $1 million. Comment un simple policier a-t-il pu payer cette somme?
Ah, des questions simples, très précises. Jean-Éric Brana, bonjour.
Bonjour.
Spécialiste des États-Unis, maître de conférence à l'université Paris 2 Assas, vous publiez ces jours-ci aux éditions Nouveau Monde, Joe Biden, l'homme qui fait trembler Donald Trump. Jean-Éric Brana, concernant Derek Chauvin, donc ce policier qui est accusé d'avoir tué George Floyd à la fin du mois de mai, il a été libéré effectivement sous caution il y a quelques jours. Il risque tout de même 40 ans de prison, et la justice américaine lui permet finalement d'être en liberté, conditionnelle certes, mais en liberté tout de même.
Oui, mais vous avez raison, Rohan, quand vous dites qu'il risque 40 ans de prison, de dire que ce n'est qu'un risque, parce que pour l'instant, il est toujours présumé innocent. Tant qu'il n'aura pas eu de procès, Derek Chauvin est un homme innocent. Donc le principe de la justice américaine, c'est plutôt de laisser un innocent dehors que d'avoir un coupable en prison ou un présumé coupable en prison. Alors il y a ce système des cautions qui étonne à chaque fois, et la question est passionnante parce qu'elle, c'est toujours une vraie passion autour de ces questions-là, de savoir comment quelqu'un effectivement peut sortir $1 million qui semble une somme énorme. Alors d'abord, ces sommes sont en fonction de l'état de fortune de la personne. Alors est-ce que ça veut dire qu'il a $1 million sur son compte? Évidemment pas, mais ça veut dire qu'il a certainement une maison, qu'il est marié, que sa femme travaille, et donc la justice a estimé qu'il pouvait aller jusqu'à $1 million sans trop de problèmes. En réalité, il y a des organismes qui fournissent cet argent, on appelle des bondsmen, et que ça correspond un petit peu à des agents d'assurance, si vous voulez, qui se rapproche de vous quand vous êtes arrêté ou quand vous êtes au prétoire, et qui vous propose un contrat par lequel entre 6 et 20% de la somme leur resteront, c'est comme ça qu'ils se payent. Pour le reste, ils vont vous demander tout de suite soit de faire une hypothèque sur votre maison, soit de fournir 20 à 30% en liquide si vous l'avez sur votre compte en banque, et puis le reste, vous le payez, c'est comme un crédit, vous le payez à crédit pour le reste de votre vie, si jamais vous ne vous représentez pas, bien sûr, devant les juges, puisque comme c'est une caution, si vous assistez à votre procès, on va vous rendre
cet argent. Mais si jamais, Derek Chauvin ne se présente pas au procès, l'agence de cautionnement en question pourra faire appel à des chasseurs de primes.
Mais elle a ses propres chasseurs de primes, donc c'est évidemment comme ça que cela fonctionne. Et il sera poursuivi pour le reste de sa vie. Il sera poursuivi à travers l'ensemble des États-Unis. C'est quelque chose d'assez courant, d'ailleurs. C'est vrai que certains disparaissent dans la nature et ces agences n'hésitent pas à les refournir à la justice. Et en plus, comme je l'ai dit, elles se payent un peu sur la bête puisqu'elles avaient déjà le reste qui bien sûr leur est donné. 6 à 20% d'un million de dollars, ça fait déjà une grosse somme. Donc ces agences gagnent beaucoup d'argent.
Ouais. Merci Jean-Éric Branat d'avoir pris quelques minutes ce matin pour répondre à Henri. Je rappelle que vous êtes spécialiste des États-Unis et maître de conférence à l'université Paris 2 à Sas. Sarah Tisser du service culture de RFI est à mes côtés. Bonjour Sarah.
Bonjour.
Je suis ravi d'avoir un de mes confrères du service culture. Elles sont très rares les questions culturelles dans cette émission.
Ah, la semaine dernière j'étais déjà là.
Mais vous étiez là en début de semaine dernière effectivement. Donc écoutez, c'est peut-être le début d'une longue aventure. Voilà. Des questions culturelles toutes les semaines. Je me fais le porte-parole de Vincent. On a Vincent hors antenne. Le problème, c'est que Vincent ne nous entend pas. Nous, on l'entend, mais il ne nous entend pas. Donc, c'est compliqué pour dialoguer. Vincent souhaitait revenir sur le parcours de Kenzo Takada, qui nous a quitté la semaine dernière. De nombreuses personnalités lui ont rendu hommage vendredi au cimetière du Père Lachaise à Paris. Il est décédé. Il avait 81 ans. Il est mort des suites du Covid-19. Et Vincent a entendu ces informations sur notre antenne. Il nous dit, il était surnommé le plus français des stylistes japonais. Comment a-t-il allié la mode japonaise et le style européen, et en particulier le style français ?
Eh bien, dès son premier défilé en 1970, une de ses robes fait la couverture du magazine Elle, puisqu'il est installé en France depuis, à l'époque, 5 ans. C'est une robe à motif traditionnel de kimono. En fait, pour cette première collection, pour laquelle il n'a pas beaucoup d'argent, il utilise du tissu de kimono en coton et puis des chutes de tissu de coton coloré achetées au marché Saint-Pierre à Paris. C'est pas cher non plus. Le coton à l'époque, c'est rare, en haute couture. Et c'est donc ainsi qu'il se fait remarquer en 70, en revenant à ses racines. Mais en fait, plus qu'un alliage mode japonaise, style européen, c'est un grand mix que va proposer Kenzo Takada par la suite. Un mélange de couleurs et d'imprimés, à fleurs notamment, un mélange de coupes, de matières. C'est ça, le style Kenzo. Il emprunte au kimono traditionnel japonais, mais aussi à des vêtements traditionnels du monde entier. C'est une mode métissée, joyeuse et festive qui va faire sa marque de fabrique.
Voilà donc comment Kenzo s'est imposé, lui qui a été durant près de 30 ans une des figures incontournables de la mode parisienne. Vincent nous demandait également comment de la petite collection, il a l'air de bien connaître, parce qu'il nous fait référence à la collection Jungle Jap que Kenzo avait créée dans les années 70, comment a-t-il réussi à se propulser sur le devant de la scène mondiale ?
Oui, Jungle Jap, c'est le nom qu'il a donné au départ à sa petite boutique ouverte Galerie Vivienne à Paris en 76. Il donne son prénom à la marque Kenzo. Alors d'abord, il y a sa créativité qui va effectivement marquer les esprits. Puis aussi, il saura faire le buzz, comme on dit aujourd'hui, avec des défilés extravagants dans les années 70 où les mannequins défilent en dansant, où lui-même apparaît à dos d'éléphant sur une piste de cirque. Ses créations audacieuses vont obtenir les faveurs de stars comme Jerry Hall, la compagne alors de Mick Jagger, comme Grace Jones. Dans les années 80, il collabore aussi avec des photographes de mode comme le Suisse Hans Feurer, qui vont contribuer à forger l'identité de la marque. Et puis, il se diversifie. Une collection pour hommes apparaît en 83. Une autre une collection pour la maison en 87. Un premier parfum pour femmes nommé Kenzo est lancé en 88. Bref, c'est tout ça qui va contribuer à propulser Kenzo sur le devant de la scène.
Pour moi, créer, c'est donner du plaisir, du bonheur et la liberté d'être soi-même. Voilà ce que disait Kenzo Takada. Merci infiniment, Sarah Tisser, en espérant évidemment que Vincent a pu écouter toutes vos explications, non pas au téléphone, mais à la radio,
voilà.
Évidemment. Vincent, à bientôt et j'espère que la prochaine fois, la ligne passera correctement. Bonne journée à tous. Vous restez évidemment à l'écoute de RFI. On va marquer une pause, retrouver l'ensemble du service Afrique pour la dernière édition d'Afrique Matin. Et tout de suite après, on sera de retour pour parler de la stratégie de l'opposition en Côte d'Ivoire et de ce grand rassemblement qui s'est tenu samedi dans le stade d'Abidjan pour dire non à la candidature d'Alassane Ouattara.